UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est la joie que procure le service. Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Grégory Toussaint, qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Peut-on confier des responsabilités ou un service dans l'Église à un inconverti ?» Nous allons continuer avec la rubrique « Culture et médias ». Annabelle va nous présenter le livre de la semaine qui est aujourd'hui « Le vrai serviteur de Dieu » de Watchman Nee. Et nous finirons avec Aurélie dans la rubrique « Témoignages » qui va nous partager le témoignage de Nadège qui a décidé de continuer à servir dans son Église après une émission « Prière inspirée ». Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour
Pasteur Grégory, c'est
bonjour,
un
Yveline.
Plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour chez vous.
Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous.
C'est super, on est vraiment bénis, vous allez être avec nous aujourd'hui, jeudi, et puis dans la rubrique C'est mon histoire de la semaine prochaine, donc on fractionne un petit peu pour vous avoir le plus longtemps possible
ouais,
en fait.
Merci.
Donc vous êtes le pasteur, le fondateur de l'église Tabernacle de Gloire, c'est ça ?
Oui, Tabernacle de Gloire,
à
Miami.
À Miami, exactement, ouais. Une très belle église que vous avez fondée.
Gloire à Dieu.
Et on est bénis de vous avoir avec nous pour cette semaine.
Merci, je vous remercie de l'invitation.
Avec
c'est
plaisir.
Un plaisir d'être ici.
Avec plaisir. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la joie que procure le service. Et oui, ça peut paraître bizarre. On peut être joyeux et servir en même temps.
Exactement.
Et ça procure carrément de la joie.
Oui.
Et on va voir ça tout de suite dans la pensée du jour. Donc, Pasteur Grégory, le titre de votre pensée, c'est « Servir Dieu dans ton assemblée te procure de la joie ».
Voilà. « Servir Dieu dans ton assemblée », là, le service procure la joie. La meilleure illustration de la joie que procure le service, à laquelle je peux penser au fait, c'est l'apôtre Paul lui-même. On la trouve dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, évidemment, a écrit donc l'épître aux Philippiens. Donc, nous connaissons l'épître de Paul aux Philippiens. Dans le Nouveau Testament, ce petit livre de quatre chapitres, donc, nous voyons le concept joie paraître dans 14 versets. Donc, parfois, donc, on appelle l'épître aux Philippiens l'épître de la joie. Parce que dans l'épître, il dit « Réjouissez-vous », etc. Donc, il parle de la joie à plusieurs reprises. Et dans l'un des versets les plus fameux de l'épître, Philippiens chapitre 4, verset 4, nous lisons « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Maintenant, c'est au fait un peu intéressant et même surprenant que l'apôtre Paul écrive « Réjouissez-vous », je le répète, « Réjouissez-vous », parce que cette lettre est souvent appelée une épître de la captivité. Cela veut dire que l'apôtre Paul l'avait écrit quand il était en prison. Donc, il signale cela dans Philippiens chapitre 1, verset 17, là où il dit « Cela animé d'un esprit de dispute » annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc, on sait qu'au moment qu'il écrivait l'épître, il était prisonnier, il était enchaîné, il était dans les liens. Et voilà un homme qui se trouve dans les liens, qui est en prison, qui est enfermé. Il écrit à ceux du dehors, il écrit aux chrétiens de Philippe, « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous ». Donc, il semble qu'on aurait dû avoir l'inverse, au fait. Ça aurait dû, les chrétiens de Philippe, voyant les misères de l'apôtre Paul, son incarcération, etc., qui auraient dû dire à l'apôtre Paul, réjouissez-vous. Mmh. Donc, mais c'est plutôt l'apôtre Paul qui est en prison, qui est en train d'écrire à ceux qui sont en liberté, apparemment qui sont beaucoup plus fortunés que lui, et il est en train de leur dire « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. » Alors on se demande, où a-t-il trouvé cette joie? Quelle était la source et l'origine de cette joie? Nous avons quelques indices de réponse. Premièrement, dans Philippiens, chapitre 1er, les versets 12 et 13, là où il dit « Je tiens à ce que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt servi à la cause de l'Évangile. » Donc, il a dit que mon emprisonnement a servi à la cause de l'Évangile. Et à la fin de l'Épître, dans Philippiens chapitre 4, le verset 22, il précise exactement donc ce qu'il veut dire quand il dit « ça a contribué au bien de l'Évangile ». Il a dit « tous les saints vous saluent ». Donc, il faut vous rappeler, donc il n'était pas là à l'église, il n'était pas dans une église, il était dans une prison. Il a dit « tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César ». Donc, les saints dont il était question ici, c'était d'autres prisonniers qu'il avait amenés à Christ. Et il ajoute principalement ceux de la maison de César, c'est une expression qui désigne les soldats romains. Donc, il était en prison, il a amené les autres prisonniers à connaître le Seigneur, il a amené des soldats romains à connaître le Seigneur, et parce qu'il faisait le travail de Dieu dans sa prison, il était rempli de joie. Il avait une joie que son emprisonnement, l'incarcération, les misères d'une prison ne pouvaient pas éteindre. Voilà la dimension de joie qu'on expérimente, qu'on vit lorsqu'on s'investit dans le travail de Dieu. Donc, nous vous encourageons tous à vous investir dans le travail de Dieu.
Amen.
Amen.
On est super édifiés. C'est fou parce que on n'aurait pas l'idée que Paul puisse expérimenter une joie pour ça. Mais vous avez réussi à relever un point super. C'est tellement formidable. Et c'est vrai, Paul est en prison. Il a a priori aucune raison de se réjouir. Et il réussit à se réjouir parce que quoi, comme vous l'avez dit, il sert le Seigneur.
Amen.
Et c'est vraiment ça. Quand on est en train d'être utile pour le royaume, ça procure une joie, une satisfaction personnelle, une satisfaction de voir le royaume de Dieu avancer. Alors certains vont me dire, oui, mais quand je fais le ménage dans mon église, en quoi je fais avancer le royaume? Mais oui, on le fait avancer parce qu'on est des ouvriers. Dans tout un tas de domaines, je parle de l'église locale en général, mais dans notre vie de tous les jours, on peut servir. Admettons dans l'église locale, toutes ces choses qui sont faites, lorsqu'on fait le ménage à l'église par exemple, on permet au pasteur de se consacrer pour être prêt, si c'était lui qui devait aller faire le ménage, comment il fait pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour préparer son message, se consacrer, chercher la face de Dieu, avoir des révélations. Et si c'est le pasteur qui doit aller s'occuper des enfants à l'école du dimanche parce qu'il n'y a personne pour le faire, comment est-ce qu'il fait pour prêcher la parole en même temps, etc., etc. Ça paraît tout bête, mais en fait, il y a des besoins dans l'Église. Et Dieu, qui est bon, ne nous dit pas « travaille, travaille, travaille » et tu n'auras rien en retour. Dieu est merveilleux. Il nous dit « tu me sers et en échange, qu'est-ce que je te donne? De la joie, parce que ça procure de la joie de servir Dieu, tout simplement.
» Il y a beaucoup de joie à servir Dieu et c'est la semaine passée, je suis un peu mêlé dans mes dates là, la semaine passée qu'on a parlé de la joie de donner, en disant il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais on peut utiliser ce verset pour le service aussi.
Exactement.
Parce que servir, c'est donner.
Ouais.
Servir, c'est pas se servir, c'est servir les autres.
Ouais.
Et quand on sert les autres, mais il y a de la joie.
Ouais.
Parce que quand on se sert, on est peut-être content parce qu'on s'est fait du bien.
Ouais.
Mais quand on fait du bien aux autres, et je suis sûr que, enfin, si vous l'avez pas expérimenté, c'est peut-être le temps de l'expérimenter, des fois vous serez peut-être fatigué, découragé, vous dites, j'ai envie de m'asseoir et de rien faire.
Ouais.
Puis finalement, vous allez servir. Et quand vous servez, ben vous vous retrouvez avec plus de joie qu'avant, en meilleure forme qu'avant, parce que oui, ça fait plaisir de servir. Quand on voit le sourire de quelqu'un parce qu'on l'a servi, parce qu'on a fait du bien, que ce soit servir les pauvres, que ce soit encourager quelqu'un, même que ce soit faire quelque chose tout seul dans son coin et puis que personne ne le voit, parce qu'il y a du service dans l'ombre aussi. Hein.
Oui.
On
peut
parler de l'entretien d'un bâtiment. Il y a des choses que personne ne voit. Mais Dieu le voit et on le sait. Et puis on est content de le faire parce qu'on sait qu'on contribue à une grande œuvre.
Exactement.
Ça me fait penser quand Jésus il a envoyé les disciples deux à deux et qu'ils sont allés prêcher et puis ils sont revenus contents.
Oui.
Et pareil, là, ils étaient en train de faire quelque chose que Dieu leur a demandé, ils étaient en train de servir.
Ouais.
Et là, ben, ils sont revenus. La Bible nous précise vraiment qu'ils étaient tout contents, ils étaient heureux parce qu'ils avaient accompli une mission que Dieu leur avait demandée. Mm-hmm. Dieu prend plaisir à ce qu'on fasse ces choses-là. Et nous-mêmes, de fait, on ne peut pas l'expliquer parce que c'est comme Pasteur Jonathan, il disait, quand on fait quelque chose, parfois, moi, par exemple, je sers, ben, entre autres, dans l'évangélisation dans mon église. Et
amen. Gloire à Dieu.
C'est jamais... C'est jamais facile de sortir.
Ah, faut sortir de
oui, il faut vraiment que, OK, aujourd'hui, ça va, il y a la neige, c'est l'hiver, ça va. On se dit, OK, ça va, mais une fois qu'on est sur le terrain et ouais. qu'on le fait, il y a une joie qu'on peut pas expliquer. Il y a quelque chose au plus profond, c'est comme si on avait accompli un exploit. On a juste servi, on est juste allé faire quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et vraiment, ça procure une joie immense. Ça procure vraiment une joie immense. Et moi, je veux encourager vraiment les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ça peut sembler difficile de prime abord quand on se dit, bah, ça va prendre du temps, peut-être que je travaille, je fais ci, je fais ça. Ça peut sembler difficile de prime abord, mais ça n'enlève rien au fait que vraiment, c'est déjà Dieu qui nous demande de le faire. Dieu prend plaisir à ce qu'on le fasse. Mais en plus, il y a plus vraiment de bonheur à donner. Et quand on donne, c'est ce bonheur que les gens y cherchent dans tout plein de choses. Mm-hmm. Mais on peut avoir un bonheur vraiment là, évident, gratuit, juste en servant le Seigneur.
Exactement. Vous, Pasteur Grégory, dans votre assemblée, vous prêchez souvent sur le service. C'est quelque chose qui doit revenir souvent?
Ah oui, définitivement. Donc, on encourage les gens à servir et évidemment, on devient grand en servant. Mm-hmm. Donc souvent, je prends l'angle de grandeur Jésus-Christ. Les disciples discutaient entre eux qui va recevoir la première place, qui va être grand.
Oui.
Jésus-Christ ne leur avait pas dit qu'ils avaient péché en aspirant à être grand. Jésus n'avait pas dit que c'était un péché, mais il a dit voilà comment vous pouvez devenir grand. Vous pouvez devenir grand en servant.
Amen.
Donc c'est un peu ça. Donc on reçoit, donc on a de la joie, mais en même temps on a la chance de faire un impact mm-hmm. sur les autres.
Exactement. On avait fait une série de paroles de femmes sur le service. Si
ouais,
je me souviens bien.
On en parle souvent oui, du service en paroles de femmes.
Ça y a que les femmes.
Mais je me souviens, tu avais dit que c'était un remède extraordinaire contre la dépression, le service. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Mm-hmm.
Contre la solitude.
C'est vrai.
Annabelle a dit. Écoutez bien, la théorie d'Annabelle.
Le service est un remède contre beaucoup de choses. Et oui, contre la dépression, parce qu'on peut se sentir inutile, on peut se sentir mal dans sa vie, à quoi je sers, je suis nulle, j'ai pas de valeur, mais fais quelque chose et puis tu vas commencer à avoir de la réjouissance et recevoir aussi la satisfaction de Dieu, pas pour ce que tu es parce qu'on sait qu'on a une valeur en Dieu, mais parce qu'on est en train de servir Dieu et on peut pas avoir cette satisfaction si on le fait pas tout simplement. Et je crois que le service aussi est une solution que Dieu nous offre contre la solitude et aussi parfois contre le célibat. Pourquoi? Ça n'a rien de magique. C'est juste que faut faire connaissance à un moment donné.
Ouais.
Et puis quelquefois on attend qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Bah. Mais lorsqu'on est juste en route et puis qu'on sert dans notre église, qu'on sert dans un ministère, forcément on va rencontrer des gens, on va se connecter avec des gens. Ouais. On voit tous les gens dans la Bible qui servaient, ils rencontraient tous des gens. Et ils souffraient pas de solitude.
Ouais.
Et donc je crois que c'est un moyen de pouvoir rencontrer des personnes et de pouvoir rencontrer un mari ou une femme. On ne sert pas pour se marier, mais je crois qu'en servant, on s'ouvre des opportunités au mariage.
Mais non, t'arrêtes.
Et comme on l'a entendu, même l'apôtre Paul qui était en prison et qui aurait pu souffrir de solitude en prison, en servant, on se retrouve avec les gens de la maison de César et tout. C'est important de savoir.
C'est vrai. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans de grandes assemblées parfois. Par exemple, vous avez une grande église quand même, vous avez plusieurs milliers de membres. Et on peut vite se sentir un petit peu un nobody dans toute cette foule. On vient le dimanche, je repars, personne n'a vu, personne ne sait qui je suis, personne ne sait mon nom. Et le fait de servir, ça nous met dans un département. Ces départements régulièrement font des temps de prière ensemble, il y a des échanges, il y a des temps fraternels aussi. Et ça permet vraiment, c'est ça, de sortir de cette solitude, d'avoir ce sentiment d'appartenance à l'église, vraiment. Je suis utile dans mon église, je suis impliquée, et puis ce que je fais a une valeur, a une importance.
Exactement. Attends, je juste du coup,
Annabelle,
lève la main. Faut que je souligne parce que sinon je vais pas avoir bonne conscience. Parce qu'il faut pas, à cause de ce que t'as dit, n'allez pas chercher le département où il y a des personnes qui vous intéressent en vue du mariage.
On peut servir sentir... avec le troisième âge.
Je vais me sentir coupable.
Oh, ben ça peut être un début.
Mais c'est ça, c'est jamais.
Écoute, faut bien commencer quelque part, alors on peut pas.
C'est Evine qui l'a dit, c'est pas moi.
Ah ben, vous voyez, rien que d'en parler du service, ça nous procure de la joie.
Mais il y a de la joie. Puis ceux qui nous écoutent et qui ne servent pas, ils comprennent qu'on n'est pas dans un mode de jugement.
Non,
on n'est pas en train de pointer du doigt en disant « qu'est-ce que tu fais assis dans ton fauteuil, là, bouge-toi ». Non, non, on n'est pas dans ce mode-là. Mais par contre, enfin, personnellement, on est plus dans un mode de compassion.
Oui.
Ouais. Je plains les gens qui ne servent pas. Parce qu'ils passent à côté d'une joie, ils passent à côté d'un privilège, ils passent à côté d'une satisfaction, ils passent à côté de cette voix qui va dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Ah ouais.
Si tu sers pas, le Seigneur t'aime quand même. Hein. Si tu sers pas, ton salut, le Seigneur te l'a donné, il va pas le reprendre. Si tu sers pas, ben je veux dire, la Bible est toujours vraie pour toi. Mais quand tu sers, ben, y a de la joie. Et si tu sers pas, tu passes à côté de tout ça.
Ouais.
C'est triste. C'est triste une vie comme ça.
Et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui se disent « Oui, mais moi, j'ai pas de compétences particulières. Je sais pas. J'ai aucun talent avec les enfants. J'ai aucun talent dans le ménage. J'ai aucun talent dans le média. J'ai aucun talent dans je sais pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ?»
Mais l'Église est une bonne plateforme pour apprendre, en fait. Parce que moi, j'ai appris, par exemple, à faire la sono.
Okay.
À l'église, j'y connaissais rien. Le sono, c'est
le son
en général. Et c'était vraiment une grande machine avec plein de boutons à mes yeux. J'y connaissais strictement rien. Et là, comme ça, il y avait un monsieur à l'église qui m'avait dit, mais viens voir. Et puis, j'ai juste le temps d'observer et tout. Et puis, j'ai compris comment ça se passait. Et aujourd'hui, parfois, je le fais encore dans mon église. Et vraiment, mais j'avais aucune base. Je connaissais rien, zéro. En sono, mais j'ai appris. Et là, c'est vraiment une chose, une valeur qu'on trouve à l'Église, c'est que des personnes qui n'ont pas de compétences particulières dans certains domaines, mais ils se retrouvent comme ça en train d'apprendre. Et ça aussi, ça... Parfois, moi, je pense à toutes les personnes. Il y a des gens qui cherchent du travail dans différentes choses. Mais à l'Église aussi, il y a des choses qu'on apprend. Il y a tellement de choses qu'on apprend à l'Église. Et ça fait même, pour certains, des qualifications. Des qualifications par rapport à l'emploi qu'ils cherchent. Et à l'Église, on ne demande pas un CV pour servir, contrairement à ton emploi. Et là, par contre, tu pourrais écrire sur ton CV, une fois que tu l'as pratiqué à l'Église, ben, je sais faire telle chose. Donc, l'Église est vraiment un bon centre d'apprentissage.
Oui. Également, il ne faut pas négliger les choses simples, entre guillemets, les choses simples. Je me souviens, par exemple, à l'Église, on a une équipe qui appelle les gens, donc les visiteurs qu'on reçoit le dimanche. Donc, il y a une équipe qui appelle les gens. Bon, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment une équipe, on avait juste une sœur qui appelait les gens qui venaient le dimanche. Donc, elle a appelé un lundi soir, elle a appelé vers 7h, elle a appelé les gens qui étaient venus. Elle a rencontré une femme qui nous avait visité le dimanche, qui nous avait visité en dimanche, et puis qui avait pris l'avion pour se rendre en Californie. Donc, elle nous avait visité en Floride et s'est rendue en Californie. Et quand elle a appelé, la dame était tellement déprimée qu'elle s'apprêtait à se suicider.
Oh.
Et puis, soudainement, elle a reçu cet appel de la sœur de l'église qui faisait les suivis avec les visiteurs, etc. Donc, elle a dit, je m'apprêtais à me suicider. Mm-hmm. Et donc, le téléphone a sonné. Donc, elle a prié avec elle, etc. Donc, vous pouvez imaginer la joie de cette sœur de savoir qu'elle a sauvé une vie simplement en faisant un appel téléphonique. Donc, il ne faut pas négliger les petites choses. Hein. Donc, il y a un verset qui m'interpelle souvent. Donc, quand je lis dans la Bible, c'est où l'apôtre Paul dit, en tant que serviteur, nous sommes les dispensateurs des mystères de Christ. En tant que serviteur, nous sommes les dispensateurs des mystères de Christ. Donc le ministère, c'est un mystère. Donc, si tu fais l'entretien des toilettes, c'est un mystère. Si tu fais partie de l'équipe d'accueil, c'est un mystère. Billy Graham, quand il s'est donné au Seigneur, il a dit qu'il était, quand il était venu à l'église, il ne voulait pas vraiment aller à l'église, donc il avait horreur des évangélistes, donc il avait entendu parler de certains Mordecai Ham, etc., qui allaient venir prêcher, donc lui, il dit, bon, les évangélistes prêchent pour demander de l'argent, etc., et son père l'avait encouragé à aller écouter. Donc, quand il est venu à la croisade de Mordecai Ham, donc il n'avait pas une très bonne attitude. Mm-hmm. Donc la personne à l'équipe d'accueil, donc l'a bien reçu, l'ami, il ne voulait pas s'asseoir en avant, il voulait s'asseoir en arrière, etc., etc. Et il a dit qu'il était la dernière personne à se donner à Jésus-Christ. Et cette personne-là, qui faisait partie de l'équipe d'accueil, ne savait pas qu'elle était en train de recevoir des plus grands évangélistes de l'histoire. Donc voilà, il ne faut pas négliger les choses simples.
Vraiment.
Nous sommes des dispensateurs des mystères de Christ.
Exactement. On serait étonné de savoir ce qui a été semé dans la vie de certains enfants à l'école du dimanche, par exemple. Toutes ces petites choses, on n'en voit pas forcément les fruits. On a l'impression que les enfants s'ennuient terriblement. Ils sont là, partout. Et en fait, c'est vraiment des semences qui sont faites, qui sont très très fortes. Et puis je me souviens d'une histoire que j'ai entendue dans une église où les personnes qui faisaient le nettoyage de l'église avant la réunion étaient en train de louer à l'église, en train de balayer, de nettoyer les chaises. C'était une assez grande église, il y avait beaucoup de travail. Et pendant qu'elles chantaient, des anges, elles ont entendu audiblement des anges qui se sont associés à leur louange. Et toutes, elles étaient là en train de servir. Et elles ont vécu littéralement la gloire de Dieu tout en servant le Seigneur de façon tellement simple. Parce qu'en fin de compte, le cœur de serviteur, c'est ça que Dieu aime. C'est ce cœur de serviteur. Peu importe ce qu'on fait, c'est précieux, ça a de la valeur pour le royaume de Dieu. Et quand on a ce cœur de serviteur, Dieu peut venir nous rencontrer n'importe où, dans n'importe quelle situation, et on peut se retrouver à accueillir Billy Graham sans le savoir. et des choses comme ça extraordinaires peuvent nous arriver. Jonathan, on va continuer avec la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». On a une question de Norbert d'Autriche. On est même suivi en Autriche. Il y a des francophones partout, forcément. Et qui nous a demandé, peut-on confier des responsabilités ou un service dans l'église à un inconverti? Ça, c'est une bonne question. Parce que quand on manque de serviteurs, est-ce qu'on peut aller recruter à l'extérieur?
C'est une très bonne question. Alors, dans un premier temps, on va répondre non, quand même. Faut pas exagérer. On peut pas demander tout à n'importe qui. J'en veux pour preuve ce que l'apôtre Paul dit à Timothée concernant les anciens. Les épiscopos, les évêques, il dit 1 Timothée 3:4, il dit il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il s'occupe de ses enfants, mais il dit s'il ne sait pas diriger sa maison. Puis ensuite, il continue en disant il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc déjà, il faut qu'il soit converti et pas fraîchement converti, pas un nouveau converti. Donc il y a certains postes ou certaines fonctions dans l'Église où on ne peut pas, en suivant les conseils de l'apôtre Paul, eh bien, donner des responsabilités. Oui. Et d'une manière générale, certains l'ont étendu très loin en disant, si on n'est pas impliqué dans l'Église, certains vont parler de membership, d'être membre, si on n'est pas membre de l'Église, on ne peut pas être dans un ministère. D'autres vont dire, si on n'a pas fait le cours 101, le premier cours d'introduction... Le cours d'introduction, on ne peut pas servir dans l'Église. Et il y a différentes... Certains vont dire que si on n'est pas baptisé, on ne peut pas servir dans l'Église. Et il y a, selon les Églises, il faut reconnaître qu'il y a différentes façons de faire. Et on respecte tout ça, parce qu'évidemment, c'est une question de politique interne, de règlement intérieur à l'Église. Mais maintenant, il ne faut pas non plus être hypocrite, parce que c'est un mot que Jésus emploie assez souvent, et il ne faudrait pas que ça nous concerne, en disant non, nous, il n'y a que des gens qui sont convertis, qui servent dans l'Église, parce que d'une certaine manière, quand il y a besoin de faire la construction de l'Église, est-ce que tout le monde est converti? Quand il y a besoin d'aller voir un architecte, un plombier ou un comptable ou toutes sortes de métiers comme ça, ou même vous voulez installer un système de lumière dans votre église, est-ce que c'est un converti qui va le faire? Vous voulez installer un système de son, on va dire donc une sonorisation, et on va dire mais c'est des professionnels. Bon, jusqu'où on va? Et alors il faut donc avoir une certaine intégrité en disant il y a certains postes à responsabilité, parce que la question est double, il y a responsabilité et service. Alors en tant que responsabilité, On ne peut pas confier la responsabilité à quelqu'un qui ne comprend pas ce que représente cette responsabilité. Mmh. Quand on a une responsabilité sur des âmes, il faut comprendre ce que c'est que le salut d'une âme. Mmh. Quand on a une responsabilité sur le troupeau, la famille de Dieu, il faut comprendre ce que cela représente. Ensuite, en ce qui concerne le service, il y a toutes sortes de services. Mmh. Il y a des services qui sont représentatifs, on représente l'Église. Un diacre va représenter l'Église. On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec une cigarette et puis un chapeau et puis qui va représenter l'Église. Non, ce n'est pas ça l'image de l'Église. Mm-hmm. Donc,
le chapeau.
Ben, la casquette, chapeau de cowboy, je ne sais pas. Imaginez ce que vous voulez.
Bien connu, hein, les chapeaux, attention.
Imaginez ce que vous voulez ici. Mais oui, comprenez que il y a certaines. Si vous demandez à, je ne sais pas, à aller faire le tour de la communauté pour dire voilà, on aimerait s'impliquer dans la communauté, comment on peut vous aider, puis vous envoyez quelqu'un qui dit des gros mots, oui, qui a un mauvais témoignage, on va dire c'est peut-être pas la meilleure personne. Maintenant, ceci étant dit, de plus en plus, dans la modernité dans laquelle nous sommes, on a conscience que être dans l'Église, puis on en a parlé tout à l'heure, c'est important d'être intégré et de s'impliquer. Mmh. Et si quelqu'un vient dans l'Église depuis pas longtemps, si vous l'impliquez tout de suite, et vous allez créer une appartenance et il va se sentir utile. Mmh. Alors, j'ai été directeur de chorale, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a très longtemps. Wow. Et il y a deux visions pour une chorale. Je prends la chorale comme exemple. Oui. Il y a ceux qui vont dire, non, mais la chorale, il faut être tous remplis du Saint-Esprit pour être dans la chorale. Et c'est vrai. Mmh. Si vous voulez conduire l'Église dans la louange, il faut que vous soyez vous-même dans la louange. Mmh. Et dans ce sens-là, il faut un haut standard de spiritualité pour être dans la chorale. Maintenant, ça peut être une autre vision de la chorale, en disant tout le monde peut venir dans la chorale, converti ou pas.
Ah oui, tant que chanter.
Et encore.
Et encore. Tant qu'il ne porte pas de chapeau.
Et le but de la chorale ici ne devient plus une chorale pour bénir l'Église, mais c'est la chorale qui bénit les gens. Ah. Parce que quand quelqu'un sert, il est béni. Et quand on est en train de servir, que ce soit la chorale ou un autre service, et quand quelqu'un est en train de servir avec des frères et sœurs, eh bien, on crée des liens. À un moment donné, il va ouvrir son cœur. Il va dire, je comprends pas, t'es toujours joyeux. Et puis ça crée des liens. Enfin, bref, je vous laisse méditer là-dessus. Oui et non.
Voilà. En gros, si je comprends bien, ça peut donner une opportunité à un inconverti de connaître le Seigneur. Donc, faut pas fermer la porte, mais il faut
n'importe
limiter,
quoi.
Pas dans n'importe quoi. C'est ça?
C'est ça.
On aurait juste pu dire ça. Je plaisante.
Je te tire mon chapeau.
Je pense que l'histoire du chapeau, on va s'en parler. Merci beaucoup, vraiment. Non, mais c'était une très bonne réponse. On plaisante, mais c'était une très bonne réponse. C'était très précis parce qu'il n'y a pas de oui ou non à donner, effectivement. Merci, Norbert. J'espère que vous avez eu votre réponse. Et vous, à la maison, si vous avez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse pasteurjayunequestion@enseignemoi.com. Écrivez-nous toutes les questions qui vous passent par la tête. On fera une sélection pour vous. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes le livre de Watchman Nee, qui est le vrai serviteur de Dieu. On va regarder la vidéo de présentation, oui, et après je te donne la parole.
Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com.
Donc oui, le vrai serviteur de Dieu de Watchman Nee. Vous voyez une petite ressemblance entre lui et moi. Watchman Nee est assez connu pour ses écrits relativement profonds, notamment, oui, sur le service de Dieu, le caractère du serviteur. Et dans ce livre, le vrai serviteur de Dieu, l'idée principale est de pouvoir s'assurer que nous sommes toujours malléables entre les mains du potier, qu'on puisse se remettre sur le tour du potier pour qu'il puisse nous façonner à sa façon. Et il décrit en fait qu'est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu. Le travailleur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait prendre du temps, qui aime tout le monde, les inconvertis et les convertis. C'est quelqu'un qui qui surtout, oui, travaille. Et on va lire un petit extrait par rapport à ça. Certains serviteurs de Dieu ont en réalité le travail en aversion et savent toujours présenter une excuse pour l'éviter. D'autres ne se sentent pas poussés à le rechercher et se contentent de demeurer oisifs, attendant simplement que quelque chose se produise. Et tout fidèle serviteur de Jésus-Christ rachète le temps, et s'il n'est pas pratiquement engagé dans quelques besognes, il est intérieurement actif et s'attend au Seigneur en un véritable exercice de cœur. Et je pense que c'est quand même en rapport avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Si on se reconnaît en tant qu'un réel serviteur de Dieu, c'est pas juste un titre, un réel serviteur de Dieu travaille et met la main à la pâte. Il n'attend pas que le travail arrive à lui, il voit les choses arriver. Il dit qu'il est pénible, bon il est assez direct, hein, qu'il est pénible de voir combien peu de gens savent discerner ce que Dieu accomplit aujourd'hui. Il est tragique mais possible de passer à côté de champs prêts pour la moisson sans apercevoir le grain mûr. Il est possible que la tâche se trouve à portée de la main sans que nous la remarquions. Les chrétiens qui n'ont pas conscience de l'urgence de la tâche et qui peuvent attendre, et il y a des chrétiens qui n'ont pas conscience de la tâche et peuvent attendre encore 3-4 mois avant de se mettre franchement à l'œuvre, sont des serviteurs inutile. Et Jésus-Christ a besoin d'ouvriers qui utilisent jalousement les moments qui passent et qui ne remettent jamais au lendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même. En certains endroits, la moisson ne peut être mise en grange à cause de chrétiens trop nombreux qui n'aiment pas le travail. Mmh. Et c'est vrai qu'au-delà de la joie qu'on a à servir, il y a une urgence en fait dans le service aussi. Il y a une moisson qui est prête et lorsqu'on sert, on a cette satisfaction de se dire, on va parler du réveil dans la semaine, je pense, de se dire bah, je participe au réveil, il y a des âmes à gagner et j'ai besoin d'être zélé, j'ai besoin de mettre la main à la pâte, j'ai besoin de me remettre sur le tour du potier pour devenir ce vrai serviteur de Dieu et trouver ma joie, non pas dans un confort, mais trouver ma joie dans le fait que je puisse servir Dieu et me rappeler de Paul en prison qui rappelait aux autres, soyez dans la joie, réjouissez-vous, soyez toujours, toujours joyeux. Et il n'y a pas de plus grande joie, c'est vrai, que de servir le Seigneur. Donc je vous recommande ce livre de Watchman Nee, Le vrai serviteur de Dieu, disponible sur ma boutique chrétienne à 6,90 €.
C'est pas cher, c'est pas bien cher, investi quand même. Bah, Watchman Nee, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est connu pour être assez profond, comme tu l'as dit. Puis oui, ça peut être un peu compliqué, donc faut pas non plus se décourager.
Celui-là est relativement simple. Il est plus simple que certains autres livres à lire.
Bon. Si vous aimez Watchman Nee, mais qu'en général vous êtes un peu perdu, c'est un bon livre qu'on peut vous recommander. Et ce livre sera offert à la gagnante du quiz de mercredi. Donc, un beau cadeau à offrir.
Faut qu'on gagne, Jonathan.
Non, vous allez perdre.
Donc, merci Annabelle de nous avoir présenté ce livre. Et nous allons continuer maintenant avec la rubrique témoignage. Aurélie, tu as un témoignage à nous apporter de Nadège, c'est bien ça?
Oui, c'est Nadège, elle avait déjà eu à témoigner, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait parlé de son battement de nerfs qu'elle avait.
Ah oui!
Et suite à une émission de Vie de foi, elle avait été guérie avec les pasteurs Beumier. Et aujourd'hui, elle nous a réécrit encore pour nous parler cette fois-ci d'un autre témoignage, c'est qu'elle avait beaucoup de défis, et elle lui dit, elle servait dans son église au niveau des enfants. Et elle avait beaucoup de défis dans sa famille. Elle avait résolu en elle-même de ne plus servir, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté une émission de prière inspirée sur le thème « Prions pour manifester la patience et la fidélité ». Et alors, durant l'émission, elle dit que Jérémie a eu une parole de connaissance pendant l'émission et Dieu lui indiquait clairement qu'elle devait continuer à servir. Donc là, on voit que vraiment, elle a une parole du Seigneur. Ça veut dire que pour appuyer tout ce qu'on ne cesse de dire depuis le début de cette émission, Dieu prend plaisir à ce que nous servions. Il a même donné une parole de connaissance à Nadège pour l'inciter à continuer. Et là, elle dit qu'elle a recontacté ses responsables pour leur dire, eh bien, malgré mes problèmes familiaux, mais je vais continuer. Elle précise pas la nature de ses problèmes familiaux, mais ça devait vraiment la peser parce que, au final, elle avait décidé de tout abandonner pour ça. Et au fur et à mesure, elle dit, elle est retournée à son service. Dieu a continué à renouveler ma passion pour le servir. J'ai fini mes études et le Seigneur continue d'agir dans ma famille pour sa gloire. Donc, elle a eu une évolution par rapport à sa famille, parce que Dieu a agi. Et là, elle dit, j'ai été touchée et vraiment reconnaissante, parce qu'elle explique que par la suite, un an plus tard, bah, il y a quelqu'un qui lui a écrit une lettre pour lui dire, pour lui remercier de son service. Ce service que, à ses yeux, était inaperçu, est passé comme inaperçu. Mais là, il dit qu'un an plus tard, il y a quelqu'un qui lui a écrit pour lui remercier de ce service-là. Et elle a vu en ça un acte du Seigneur, en fait. Parce qu'elle avait vraiment décidé d'arrêter, elle avait décidé de ne plus le faire. Et elle a vu que le Seigneur a intervenu et c'était comme une confirmation pour elle que, ah mais tiens, il y a un de mes responsables qui l'a remarqué au point de m'écrire une lettre. Donc c'est ça son témoignage, c'est vraiment qu'elle a reçu une parole du Seigneur et elle a obéi, elle s'est mise à l'œuvre pour servir. Et comme je le dis, mais ça nous montre encore à quel point Dieu aime le service. Si Dieu peut passer par quelqu'un, pour donner une parole de connaissance pour dire n'arrête pas ton service, continue, ça veut dire que Dieu prend plaisir à ce que nous servions. Et là, elle avait des difficultés. Ce ne sont pas des difficultés qui peuvent empêcher qu'on serve le Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les défis du quotidien, il n'y a pas d'excuse pour ne pas servir le Seigneur. Donc vraiment, on doit prendre le temps de servir et c'est ce qu'elle a fait. Et comme la Bible aussi nous dit, on cherche d'abord Dieu, le royaume, et toutes les autres choses nous sont données par-dessus tout. Mais elle, elle a obéi à la parole du Seigneur. Et dans sa famille, elle est en train de voir de grandes avancées. Mm. Dieu est fidèle, c'est bon, le Seigneur.
Quelle belle conclusion, Aurélie. Gloire à Dieu, c'est génial, parce que la Bible dit, hein, cherchez premièrement les choses d'en haut, donc le royaume des cieux, la justice, et moi, je vous donnerai tout le reste, je m'occuperai du reste, je m'occuperai de votre famille, je m'occuperai de vos problèmes dans vos études, dans votre travail, je m'occuperai de vos problèmes de couple, je m'occuperai de votre état de santé, etc. Elle a choisi juste de s'occuper du royaume, et puis ça peut paraître, c'est ça, insignifiant, se disant, voilà, mon service pour les enfants, est-ce réellement important? Ben oui, c'était important, et puis cette lettre lui a prouvé, et je crois que si on savait vraiment l'importance de ce qu'on est en train de faire, on n'aurait pas de difficulté à servir. Ça nous pousserait vraiment à servir davantage.
Il faut que ce soit la joie que procure le service et pas forcément la joie que procure le résultat ou le fruit ou ce que l'on voit du service. Parce que des fois, on ne le voit pas, mais on doit servir avec joie. Le psaume 100 nous dit « Servez l'Éternel avec joie ». Et même juste avant, verset 1, il est dit « Vous tous habitants de la terre ». Donc, tous les habitants de la terre, si vous êtes habitants de la terre, écoutez-nous, vous êtes invités à servir l'Éternel avec joie.
C'est un rendez-vous, hein. Tout le monde est concerné, là. On ne peut pas se mettre à part. Et j'avais gardé le verset du jour pour vous le montrer pour la fin, parce qu'on l'avait beaucoup cité, le verset du jour qui était aujourd'hui dans Actes 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un principe biblique qu'on a tous eu le privilège d'expérimenter une ou plusieurs fois dans notre vie. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, si vous avez tendance à être malheureux, à vous sentir seul ou même dépressif certaines fois, je crois que vous avez eu des petites recettes qui vont vous permettre d'expérimenter une joie nouvelle en vous impliquant dans le service, que ce soit dans votre église, que ce soit simplement en commençant à aller témoigner de l'amour aux gens qui vous entourent. Il y a plusieurs façons de servir. Alors, on a parlé vraiment de l'église locale, mais il y a plusieurs façons de servir. Merci à vous tous pour cette émission. Pasteur Grégory, merci d'être venu. Est-ce que vous aimeriez, avant de terminer, donner un petit encouragement aux personnes qui nous écoutent pour vraiment s'impliquer pour le Seigneur?
Non, vraiment. Donc, nous aimerions encourager à vous, à toutes les personnes qui nous regardent, vous qui nous regardez. Nous vous encourageons à vous investir dans le travail de Dieu. Vous n'allez pas regretter le temps que vous allez passer dans la présence de Dieu, à vous investir dans le travail de Dieu. Vous n'allez pas le regretter.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous allons vous retrouver jeudi, comme je l'ai dit. Jeudi, vous allez répondre à un pasteur, j'ai une question. Vous allez faire un petit retour avec Annabelle sur la campagne In Haïti, qui était un moment vraiment merveilleux. Et puis, comme je l'ai dit, dans deux semaines, le vendredi, il y aura la rubrique « C'est mon histoire » avec vous. Donc, on ne se quitte pas tout de suite. Merci à vous tous pour cette émission. Nous allons nous retrouver demain. Demain, notre thème sera « Comment traites-tu les autres ?» Un thème très important.
Tu vois comment elle me traite, Evelyne.
Je ne serai pas là demain.
Je ne sais pas si la caméra était sur toi à ce moment-là, mais Annabelle vient de frapper au... Comment penseras-tu les autres ? Anne apportera la pensée du jour et nous aurons la rubrique famille avec Frank qui va nous parler de l'amour que mérite votre femme. Oh. Donc messieurs, je vous invite à être là. Mesdames, dites à votre mari de suivre l'émission. Et si vous n'êtes pas encore mariés, messieurs, vous allez pouvoir prendre des notes pour vous préparer au mariage à être un excellent mari. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci. Et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.